Je voudrais que nous commencions en lisant un passage dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, et au chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà donc un passage sur le retour du Seigneur et la venue aussi de l'Antichrist. Alors, le mot « Antichrist » n'est pas dans ce passage. Il est dans d'autres passages, notamment c'est Jean qui en parle. Et là, il parle, il lui donne d'autres noms. Il dit l'impie, l'adversaire, etc. L'homme de la perdition, le fils de la perdition. Et donc, nous attendons Jésus-Christ. Nous n'attendons pas l'Antéchrist, nous attendons Jésus-Christ. Ceci étant dit, il y a ce verset qui dit « Le mystère de l'iniquité agit déjà ». Et le mal, en fait, est en train déjà de préparer l'avènement de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist est lié à Christ parce qu'il s'appelle l'Antéchrist. Ça veut dire, littéralement, ça ne veut pas dire celui qui est contre Christ. Ça veut dire celui qui est à la place. Anti, en grec, ça veut dire à la place de. Et en fait, l'Antéchrist est une copie et il va se faire passer pour Christ, il va arriver avant lui. Quand il parle du jour du Seigneur, là, il ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, il parle du retour glorieux. Les Thessaloniciens étaient troublés parce qu'ils étaient persécutés. Déjà, dans 1 Thessalonicien, ils étaient persécutés, mais en 2 Thessaloniciens, ça n'avait fait qu'augmenter. Ils étaient tellement persécutés que quelqu'un a commencé à dire dans l'Église, ou par une fausse lettre, « Nous sommes dans la tribulation. » C'est la colère de Dieu a commencé à tomber et nous sommes dans la tribulation. Et Paul leur répond et dit « Si vous étiez dans la tribulation, vous auriez déjà vu l'Antichrist. » Parce qu'il faut qu'il arrive avant. Et dit « Comme l'Antichrist n'est pas là, vous n'êtes pas dans la tribulation. Hein. » Vous êtes, il dira plus tard, vous êtes réservé non pas à la colère, mais à l'espérance, à la joie, au salut. La colère de la tribulation, c'est pour ceux qui n'ont pas cru pendant l'ère de la grâce. Mais donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comparer, d'étudier un peu ce passage. Et qui est cet Antichrist et comment est-il une imitation de Jésus-Christ? Alors, j'ai d'abord un diaporama qui fait un parallèle entre Christ et l'Antichrist. Donc, l'Antichrist est une image de Satan. Il est l'image de Satan. Satan étant invisible, il va se manifester par un homme, l'Antichrist. Christ, lui, Jésus-Christ, est l'image de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans l'Écriture. Tout ça, c'est tiré de versets bibliques. Hein. Ensuite, l'Antichrist est le deuxième de la trinité satanique. Parce que Satan a une trinité, puisqu'il veut copier Dieu en toute chose. Il y a Satan qui représente le Père, l'Antichrist qui représente le Fils, et dans l'Apocalypse, on voit le faux prophète qui représente le Saint-Esprit. Et ils forment une trinité qui va dominer le monde pendant 3 ans et demi et qui va persécuter les Juifs, persécuter les croyants en Jésus et détruire tout ce qui est destructible. Jésus-Christ, lui, bien sûr, le deuxième de la trinité divine, et c'est pour ça que Satan veut l'imiter. Ensuite, l'Antéchrist va régner 3 ans et demi. Il y a plusieurs chiffres qui sont donnés dans l'Apocalypse, en mois et en jours, et ça correspond à 3 ans et demi. C'est vraiment la fin, là, de la tribulation, et l'Antéchrist va régner pendant 3 ans et demi. Ce qui est curieux, c'est que Jésus-Christ, lui, son ministère a duré environ 3 Pâques. On voit dans les évangiles, il était là pendant 3 Pâques pour exercer, donc 3 ans à peu près. On voit même là, il a voulu copier. Il se révèle, l'Antichrist, et arrive par la puissance de Satan. C'est ce qu'on a lu dans le texte. Et les deux mots que Paul utilise, c'est apocalypse et parousie. Ce sont les mêmes mots qu'il emploie pour Jésus-Christ. L'Antichrist va se révéler un moment. Il va avancer caché. On ne va pas distinguer. C'est pour ça que les gens qui, sur Internet ou les réseaux sociaux, disent Obama, c'était l'Antichrist, maintenant c'est Trump. À chaque nouveau président américain, de toute façon, c'est l'Antichrist. Ou c'est le prince Charles, ou c'est le pape. Voilà. Non, il va arriver, il va avancer caché, puis un jour, il va se révéler d'un seul coup. Et là, ce sera trop tard. C'est-à-dire, quand il va se révéler, il va exercer sa dictature. Et puis, il va arriver aussi par la puissance de Satan. C'est Satan qui va lui donner son pouvoir. Christ, lui, arrive et se révèle par la puissance de Dieu, bien sûr. L'Antichrist vient de l'abîme et il va à la perdition. L'abîme, dans la Bible, c'est un lieu de perdition pour les anges, en particulier. Et Satan est un ange, est un archange. Et donc, son Antichrist va venir de l'abîme. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire concrètement. L'Antichrist paraît être un homme quand même, mais est-ce qu'il est un faux homme? Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va à la perdition, c'est-à-dire sa destination, c'est l'étang ardent de feu. Et Jésus a dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges et ses démons. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, il a été créé pour Satan. Malheureusement, des hommes vont aller parce qu'ils vont préférer suivre Satan et l'Antichrist. Christ, lui, vient du ciel. Il descend du ciel et il nous apporte le salut. Ensuite, l'Antichrist est appelé la bête dans l'Apocalypse. La bête, ça veut dire le monstre. C'est quelqu'un de monstrueux, moralement. Pas forcément physiquement, il est très séduisant, mais moralement, il est monstrueux. Christ est appelé l'agneau. C'est le contraire d'une bête. L'Antichrist et l'homme sans loi. L'impie, là, le mot dans la Bible second, l'impie, c'est littéralement l'homme sans loi. C'est-à-dire, c'est le rebelle absolu. Il est sans foi ni loi. Il n'y a aucun principe, aucun regret, aucun remords. Il peut massacrer des gens sans aucun remords. Jésus-Christ est le juste, le saint. Jésus-Christ a obéi à la loi de Moïse, en toute chose. Il n'a jamais désobéi. Une fois, on lui a dit, mais quand même, tu ne te laves pas les mains, enfin tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, mais ça c'était pas dans la loi de Moïse, c'était les pharisiens qui l'avaient rajouté. Ensuite, il est appelé le mystère de l'iniquité, et Christ dans Timothée est appelé le mystère de la piété. Ça c'est intéressant ce parallèle dans les écrits de Paul, mystère de l'iniquité, mystère de la piété. Ensuite, l'Antichrist aura une blessure mortelle qui sera guérie, on voit ça dans l'Apocalypse. Donc, il va être apparemment tué ou blessé mortellement, et puis il va réapparaître, et tout le monde va s'exclamer, va dire, c'est un miracle, il est ressuscité. Il copie, bien sûr, Christ, qui est vraiment mort et vraiment ressuscité. Je pense que l'Antéchrist va jouer la comédie, ou voilà. Ensuite, son nombre est 666, on connaît bien, dans l'Apocalypse 13. Le 6, dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme. Parce que le chiffre de Dieu, c'est 7. Et l'homme est un petit peu inférieur à Dieu. Mais 666, c'est la Trinité. Vous voyez, c'est 3. C'est, encore une fois, la Trinité satanique. Et Jésus, lui, c'est 888 ou 777. Pourquoi? Parce que le mot « Jésus » en grec, vous savez que chaque lettre grecque et chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Bon, c'est comme ça, les hommes leur ont donné cette valeur. Il s'avère que « Jésus », si vous additionnez, ça fait 888. C'est étonnant quand même. Et En Apocalypse 5-6, il dit, Jésus avait les sept esprits de Dieu, et il y a trois fois le mot sept dans le verset 5, verset 6 d'Apocalypse 5. Il avait les sept yeux, les sept esprits, etc. Il y a trois fois sept. Jésus est à la fois trois fois sept et trois fois huit. Il est huit dans la Bible, c'est la plénitude, hein, la complétude. Christ est parfait, il est Dieu et il est complet. Il n'a pas besoin d'autre chose, d'autres personnes. Satan, c'est le sous, celui qui est en dessous. L'imperfection absolue. L'antéchrist va imposer une marque sur ses esclaves. Hein. Quelle est la marque, justement? C'est le 666 pour acheter ou vendre. Christ, lui, accorde le sceau du Saint-Esprit. Et la marque, c'est une copie, hein, de Dieu. Dieu met le sceau du Saint-Esprit sur nous pour nous sceller pour l'éternité, mais le Satan va mettre son sceau, mais pour perdre les gens. Parce que ceux qui auront sa marque, la Bible dit, périront dans les temps de feu. Ensuite, il se proclame Dieu. Alors que Christ, dans Philippiens 2, qui est Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même. Ça, c'est quelque chose. L'humilité ne fait pas partie de Satan. Satan, c'est l'orgueil absolu. Et l'orgueil, en général, est satanique. Chaque fois que nous sommes orgueilleux, c'est satanique. Et chaque fois que nous sommes humbles, quelque part, c'est divin. Et il y a des incroyants qui sont très humbles, mais c'est une marque divine, hein, quelque part. C'est un reste de la marque de Dieu. L'antéchrist s'oppose à Dieu complètement. Hein. Il va déclarer qu'il est contre Dieu. Et il va se dire, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qu'il faut adorer. Christ s'est soumis entièrement au Père. Ensuite, Antéchrist abhorre le peuple de Dieu. Il veut détruire les Juifs. On voit ça dans l'Apocalypse, on voit ça dans le livre de Daniel. Il s'attaque au peuple des saints, les Juifs et les chrétiens, en fait. L'Église sera enlevée avant. Mais la Bible dit qu'il y aura beaucoup de croyants dans la tribulation. Il y aura 144 000 juifs et il y aura une foule de non-juifs qui vont croire. Mais quand on croit dans la tribulation, en général, c'est au prix de sa vie. En général, on est poursuivi. Soit on est arrêté, décapité par le régime de l'Antichrist, soit on ne peut plus ni acheter ni vendre puisqu'on refuse la marque. Ça veut dire que vous êtes obligé d'aller dans le maquis pour vivre, de manger des buissons, des animaux... Et si on ne vous arrête pas, parce que vous allez être tracé grâce aux caméras qui seront partout et des satellites, hein, ce sera quasiment impossible de s'échapper. Il est Israël, et tout ce qui est antisémitisme est satanique. C'est l'esprit de l'antéchrist. Christ, lui, a donné sa vie pour Israël et pour l'Église. C'est l'inverse, évidemment. L'antéchrist a une bouche arrogante. Il blasphème. Donc il n'a pas peur de blasphémer Dieu en public, hein, à la télévision. Il va avoir une arrogance terrible. Christ est doux et humble de cœur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, on dit, ses ennemis. Hein. Il y avait quelque chose dans le Seigneur, dans sa parole, qui était douce, qui était forte, qui était profonde. L'antéchrist est le séducteur, le père du mensonge. Hein. Parce que Satan, c'est le père du mensonge, et lui, il est le séducteur. C'est un mot qui revient souvent avec l'antéchrist. Il séduira... Tous les moyens de séduction, Christ est la vérité. Christ ne séduit pas, il est. Vous le prenez comme il est. Satan, l'antichrist, il va faire semblant, il va se cacher. Et puis, il souille le temple, on voit ça dans l'Apocalypse. Il entrera dans le temple et il dira, c'est moi qu'il faut adorer, ce n'est plus Dieu. Christ a purifié le temple, au contraire. Il réalisera des miracles mensongers. Et le mot hein, est clairement là, des miracles mensongers, c'est-à-dire, en français, des faux miracles. Et là, on imagine très bien les techniques de prestidigitateurs. Hein. Les prestidigitateurs, aujourd'hui, font des choses incroyables. Il y en a un qui, en anglais, il marche sur l'eau. Il a fait, dans la Tamise, ça a été filmé, il y avait un public et tout ça, et vous le voyez, il traverse la Tamise comme ça, à pied. Les gens disent, c'est incroyable, comment fait-il ? En fait, bon, il a tout un système de verre en dessous qui est invisible. Hein. Il marche sur du verre qui est juste en dessous de l'eau. Mais il fallait faire toute une installation des jours avant, sans que personne le sache, etc. Mais l'antéchrist va utiliser des séductions, des miracles mensongers pour faire croire qu'il est Christ, qu'il est Dieu, qu'il a des pouvoirs. Et puis, Christ, lui, ces miracles étaient véritables, pas mensongers. Il est destiné à la perdition. Christ est destiné, au contraire, a été élevé, lui qui s'est abaissé, il a été élevé, son nom est au-dessus de tout nom. L'Antéchrist finira dans les temps de feu, Christ finit exalté dans le ciel. Et c'était la fin. Voilà donc l'Antéchrist qui est une imitation mauvaise de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous voulons adorer Jésus-Christ. Vous dites, mais qui voudrait adorer l'Antéchrist? Mais il y a plein de gens qui vont le suivre. Et c'est ce que dit un peu ce passage qu'on a lu, le mystère de l'iniquité. Il dit, vous savez ce qui le retient. Ah, qu'est-ce qui retient l'Antéchrist, l'impie? Alors, il y a eu beaucoup de livres écrits là-dessus. Parce que Paul ne précise pas. Il dit, vous savez, oui, eux, ils savaient, mais nous, on ne sait pas. On aimerait savoir ce qui le retient. Alors, nous, on ne peut faire que des conjectures, on ne peut que déduire. D'abord, le mot « ce », là, n'est pas est neutre, ce n'est pas « celui » ou « celle », c'est « ce », c'est quelque chose. Or, il s'avère que quand on parle du Saint-Esprit en grec, on n'emploie pas le masculin ou le féminin. Voilà, il n'a pas de genre, le Saint-Esprit, donc ça pourrait correspondre au Saint-Esprit. Et ça pourrait correspondre à l'Église aussi. Alors, le Saint-Esprit, le problème, c'est que dans l'Apocalypse, dans la tribulation, le Saint-Esprit agit encore, donc il ne va pas complètement disparaître. Mais par contre, il est dans l'Église, il remplit le cœur des croyants. Quand les croyants seront enlevés, cette puissance de bien, de pureté, cette puissance spirituelle sera enlevée, voilà, qui est présente dans le monde. C'est quelque chose de terrible parce que lorsque l'Église sera enlevée, tout ce qui est à peu près gentil, bon, miséricordieux, tout ce qui veut aider les autres gratuitement, tous ces chrétiens qui prient, qui pardonnent, qui vont aider les gens en difficulté. Il n'y a pas que des chrétiens, mais quand même beaucoup de choses sont chrétiennes. Hein. Tout ça va être retiré et ça va être un déferlement de violence, de haine, d'égoïsme, d'individualisme. On est frappé ces jours-ci par le déferlement effectivement de violence et d'individualisme. Chacun tire la couverture et essaye de demander de l'argent à l'État. Et peu importe l'aspect politique ou qui a raison, qui a tort, c'est pas ça l'idée. Mais c'est que on arrive dans ce monde où c'est chacun pour soi. Voilà. Si vous conduisez un peu en voiture, c'est chacun pour soi. C'est vraiment poussez-vous que je passe. Même à pied, on voit ça avec les piétons, les trottinettes, les vélos. C'est à Paris, c'est très particulier. Mais il faut pas penser, ce n'est qu'à Paris. C'est dans toute la France où vous avez des gens horribles partout. Et les gentils, ceux qui sont en dos, ils se font marcher dessus. Hein, c'est toujours pareil. Et lorsque l'Antéchrist va commencer à se révéler, à monter, il va y avoir cette violence. Jésus dit, ce sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, c'était quoi? Toutes les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6. Effrayant. C'est-à-dire les gens, leur imagination, leur réflexion, c'est comment je peux faire du mal? C'est pour ça qu'on est content d'attendre Christ. Parce que Christ va amener, d'abord, va nous sortir de là, puisque nous serons enlevés sur des nuées, c'est ce que la Bible dit. Et ensuite, il redescendra plus tard sur la terre pour juger le monde, pour éliminer cet antéchrist. Heureusement, l'antéchrist ne régnera que 3 ans et demi. La Bible dit que Dieu a restreint ce moment afin que ce soit moins pire. La Deuxième Guerre mondiale, 39-45, ça a duré 6 ans environ. Hitler était là depuis un moment avant. Hein. Hitler, c'est un précurseur de l'Antéchrist, hein, par sa haine des Juifs, par sa violence. Aucune conscience. Hein. Il pouvait faire massacrer des gens, il n'avait aucune conscience. Très centré sur lui, il fallait qu'on le vénère, lui. Tout le monde devait être à ses pieds. Il y avait des portraits de lui partout. Il a fait porter l'étoile juive, il a demandé, il se moquait de Dieu, des chrétiens, des juifs. Il vénérait des dieux avec l'occultisme. Hein. Il était vraiment du côté satanique, puisqu'il faisait partie d'un groupe d'occultistes qui adoraient Moloch et toutes sortes de divinités. C'est lui qui a fait venir le fameux veau de Moloch à Berlin. Et puis, il a utilisé l'Église catholique. Et ça nous fait penser à l'Apocalypse qui dit que la femme est montée sur la bête. La bête, c'est l'antéchrist, et la femme, c'est une sorte de religion remplie de pourpre et qui tue les chrétiens. Et c'était un peu l'Église qui, avec Hitler, a cru que c'était le sauveur. Il faut lire les textes et voir les déclarations des hommes religieux allemands qui, quand Hitler commençait à venir, on disait « c'est lui qui va sortir l'Allemagne de son marasme ». C'est un homme providentiel, c'est Dieu qui nous l'envoie. Les prêtres bénissaient les réunions d'Hitler. Il y a même eu des protestants qui ont soutenu les réunions de la jeunesse hitlérienne, etc. Et c'est quand il a commencé à vraiment parler des juifs continuellement que certains ont dit « c'est bizarre ». Et certains protestants se sont retirés. Mais beaucoup, l'Église l'a soutenu jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de l'Église. Et là, il a commencé à persécuter aussi l'Église. Les prêtres, il a rejeté, il a dit « je ne suis pas chrétien », etc. Mais il s'est servi de son image de bon Allemand, bien coiffé. Donc l'Antéchrist va jouer un rôle très similaire à Hitler. Au début, Hitler venait réparer les problèmes. L'Allemagne était ruinée par des erreurs, par des malversations. Et lui, il est venu redonner sa fierté. Et il va faire ça, l'Antéchrist. Il va aussi essayer, faire semblant de réparer le chaos. Toute cette violence, toutes ces guerres, ces bruits de guerre, ces individualismes, ça va créer des séditions dans tous les pays. Ça va être le chaos partout. L'Antéchrist va arriver, se révéler en disant « Je suis l'homme providentiel, je suis le Messie que Dieu a envoyé pour apporter la paix. » Et par quelques décisions bien pensées, quelques faux miracles, il va rétablir une fausse paix. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Paix, paix, il n'y a pas de paix. C'est cette illusion de paix. Et les gens vont commencer à le vénérer. Ils vont dire, mais il est extraordinaire cet homme. Il nous a redonné la paix. On se sent plus en sécurité grâce à lui, enfin. Et puis il va dire, bon, maintenant il faut contrôler les échanges parce qu'il y a beaucoup de corruption. Donc vous allez devoir porter une marque. Il s'avère que cette marque contient 666. Et il va tenir les gens. Et d'un seul coup, il va fermer les cadenas. Il va dire, maintenant, vous êtes mes prisonniers. Maintenant, je vais aller dans le temple à Jérusalem parce que le temple sera reconstruit. Et je vais demander qu'on adore mon image. Je vais dire, je suis Dieu, vous devez m'adorer. Autant de Jean qui a écrit l'Apocalypse, les empereurs romains déjà demandaient qu'on les adore comme des dieux. Et les chrétiens étaient mis à mort parce qu'ils refusaient d'adorer les empereurs. Il disait, nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Christ. Ce qui est terrible, c'est aussi la puissance d'égarement. Verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors j'aimerais dire une petite chose, ce verset pourrait nous faire croire, cette traduction, que certains ont reçu l'amour de la vérité, certains autres ne l'ont pas reçu. Comme si Dieu avait dit, toi tu vas recevoir l'amour de la vérité, tu ne vas pas recevoir. Et ceux qui n'ont pas reçu sont condamnés. Mais le mot là, le verbe grec, signifie ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ceux qui n'ont pas en eux, qui ne veulent pas la vérité. Ce n'est pas que Dieu vous donne la vérité ou l'amour de la vérité, c'est que vous l'aimez la vérité ou vous ne l'aimez pas. Et ça c'est quelque chose qui a toujours été mystérieux pour moi. Il y a des personnes qui aiment la vérité et des personnes qui n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent croire tous les mensonges possibles que la vérité. Et on est dans une époque où la vérité et le mensonge sont tellement confus. Avec les vérités alternatives, ça s'appelle, les faits alternatifs, les fake news. On vous parle, tout est complot. Derrière chaque chose, le gouvernement prend une décision, c'est forcément un complot. Il arrive un attentat, c'est un complot. Le 11 septembre, on a dit c'est George Bush lui-même, d'autres, non, c'est Israël. Donc c'était tout le monde, sauf les pilotes qui l'ont fait eux-mêmes. Et on est dans cette atmosphère de méfiance absolue. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et en tant que chrétien, on doit vraiment garder l'amour de la vérité. La vérité, d'abord, c'est Christ lui-même. Il est la vérité. Et puis, c'est bien sûr sa parole. On ne doit pas se laisser entraîner par toutes sortes de complotisme ou suivre aveuglément non plus hein, les choses de l'État. Parfois, l'État, ce qu'il veut, c'est contrôler les gens, hein, justement. Mais il y aura une puissance d'égarement que Dieu enverra sur ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvé par Jésus-Christ, il faut quand même avoir l'amour de la vérité. C'est-à-dire accepter que je suis pécheur, accepter que Dieu est vrai, accepter que Jésus-Christ est le seul sauveur. Ça demande un amour de la vérité. Si je n'aime pas la vérité, je vais chercher d'autres solutions. Mais je ne suis pas vraiment si pécheur que ça. Et Jésus n'est pas le seul, il y a Bouddha, il y a d'autres dieux, divinités ou messie. Et on va chercher à droite, à gauche. Mais quand on a l'amour de la vérité, on finit par tomber sur Jésus-Christ. C'est quelque chose que j'ai remarqué par expérience et par les témoignages que j'ai entendus. On cherche souvent partout, sauf dans la Bible. Hein. On va chercher dans les autres religions, on va chercher dans la philosophie, on va chercher dans la science. On cherche des réponses. Mais si on cherche vraiment la vérité jusqu'au bout, il y a un moment, on va tomber sur Jésus-Christ. Et là, on va dire, ah oui, c'est ça. Parce que Christ magnifie la vérité. Il est la vérité. Sa façon de parler, ce qu'il dit, ce qu'il est, d'où il vient, son accomplissement des prophéties, ce qu'il annonce, ce qu'il va faire, tout est vérité en lui. Et si on cherche la vérité, on est comblé par Christ. Mais si on n'aime pas la vérité parce que ça nous fait un peu mal, hein, c'est désagréable, eh bien on va chercher ailleurs. Et l'Antéchrist va se régaler là, avec des gens qui sont prêts à se faire séduire. Je suis frappé par la façon dont on peut être convaincu aujourd'hui par des arguments totalement fallacieux. En particulier le français, qui est une race particulière en elle-même. Hein. Si vous lui parlez de révolte, il est partant. Il dit, on va se révolter. Alors on y va. Il ne sait pas pourquoi ni comment. Et si vous lui dites révolte, il se lève. Ça vient de la Révolution française en grande partie. Hein. Mais c'est curieux que ce soit resté dans nos esprits hein, depuis la Révolution. Ça fait quand même longtemps la Révolution que c'est passé. Et il y a cet esprit de révolte contre toute autorité. Un chrétien, lui, doit renoncer à ces choses. Hein. Et il doit se soumettre à Dieu et aux autorités aussi, dit la Bible. Hein. Tant qu'elles ne vont pas contre sa conscience, évidemment, de professer Jésus-Christ et de garder la vie. Mais donc, l'Antéchrist va séduire les gens. Aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle les deep fakes. Alors, il y avait un nom français, mais je l'ai oublié. Ce sont des vidéos truquées. Et aujourd'hui, les algorithmes sont tellement puissants que vous pouvez mettre le visage de n'importe qui sur le corps de n'importe qui. Et donc, vous pouvez vous faire sur mon corps, je pourrais mettre la tête d'Emmanuel Macron et je pourrais le faire parler. Et comme si c'était moi au pupitre, je pourrais mettre Emmanuel Macron au pupitre, par exemple. Mais aussi, si quelqu'un voulait, moi, m'attaquer, il pourrait prendre mon corps et ma tête et me faire, quelque part, le salut nazi ou je sais pas, ou insulter des homosexuels. Vraiment, on arrive à un point dans le tricage des images qui va très loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut se baser sur les faits et sur les écrits. Parce que les images vont devenir tellement improbables. C'est fou le nombre d'images truquées que vous avez sur Facebook, soit truquées, soit qui datent de 5 ans en arrière. On vous dit « Regardez ce que la police fait !» Et on vous met une image de policier, vraiment. Ce n'est ni en France, ni aujourd'hui. C'était en Italie, il y a 5 ans, par exemple. Mais vous voyez l'image ? Qu'est-ce que ça provoque en vous ? La colère. Mais c'est policier. Et c'est vrai qu'il y a des policiers qui ont frappé des gens. Mais vous voyez ça, ça vous met en colère. Et il y a une manipulation là, sur les réseaux sociaux et par les images. Et cette manipulation, un jour, elle va engendrer une séduction globale hein, pour que l'Antéchrist soit accueilli comme le vrai Messie alors qu'il est le faux Messie. Il y aura une condamnation pour ceux qui n'ont pas aimé la vérité, pour ceux qui n'ont pas aimé Christ, ceux qui n'ont pas voulu de Christ. C'est très solennel. On ne peut pas échapper à la justice de Dieu. On peut dire, mais moi je suis gentil, je ne veux pas de Christ, mais je suis gentil, je suis sympathique. Ce n'est pas ça que Dieu juge, si vous êtes gentil ou sympathique. C'est est-ce que vous êtes, votre nom est dans le livre de vie de l'agneau. Mais comment on peut mettre son nom dans le livre de vie de l'agneau? C'est quand on met sa foi, sa confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il nous inscrit dans son livre. On lui appartient. On est son enfant et on est sauvé pour l'éternité. C'est comme ça que Dieu fera la différence, hein, au tribunal, au grand jugement dernier. Mais si quelqu'un dit « Moi, j'ai été religieux » ou « Moi, j'ai prié de temps en temps » ou « J'ai pas été trop méchant », Dieu dit « Je ne peux pas t'accepter, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ ?» On pourrait penser, c'est peut-être un peu étroit, mais Jésus-Christ est connu mondialement. La Bible est traduite dans la plupart des langues de la terre. Il n'y a pas un recoin sur terre où un missionnaire n'est pas allé. Hein. Et encore plus avec Internet maintenant. En Amazonie, ils peuvent regarder Internet. Hein. Et c'est tellement incroyable maintenant ce qui se passe. Et le Brésil aussi avec son explosion technique. Tout est possible aujourd'hui et on peut connaître Jésus-Christ. On ne peut pas dire que c'est réservé à une petite élite. Là. Voilà. Donc tout le monde peut entendre parler qu'il est le sauveur et tout le monde peut être sauvé. Mais si quelqu'un rejette Christ, alors il se condamne lui-même. Nous voulons être prudents dans ce monde, ne pas nous laisser inquiéter. Parce que quand même ce que la Bible dit, si vous lisez l'Apocalypse, c'est quand même terrifiant. C'est terrifiant. C'est ce qu'il y a aujourd'hui à la télévision, c'est de la rigolade par rapport à la tribulation qui va durer 3 ans et demi. Mais on ne doit pas se laisser terrifier, on doit être, nous, dans l'espérance et l'attente de Christ. Christ va venir me chercher avant, parce qu'il ne veut pas juger son peuple avec le monde. Et je vais, moi, mon espérance, c'est de rentrer dans la gloire avec le Seigneur. Quand il va m'appeler, peut-être je serai mort déjà, je vais ressusciter et venir le rejoindre, mais si je ne suis pas mort, je vais le rejoindre directement avec un nouveau corps, et ce sera le plus beau jour de ma vie, de voir le Seigneur. C'est comparé à un mariage. Quand on se marie, à l'église notamment, hein, bon, on s'est fréquenté, on se connaît, on a eu plein de temps ensemble, mais le jour où le marié voit la mariée qui arrive, là, c'est quand même un des plus beaux jours de sa vie. Elle arrive, ça y est, c'est le jour. On va être unis. Et c'est la même chose, c'est comparé à un mariage, hein, la rencontre avec Christ. Enfin, je vais voir mon Sauveur face à face. Enfin, je vais être dans sa présence. C'est plus par la foi, c'est plus de loin. Il va être là, je vais être avec lui au ciel. Ce sera même plus sur cette terre corrompue. Et c'est ça notre grande espérance. Et nous n'avons pas à désespérer. Ce monde est voué à la perdition, hein, la Bible le dit. Hein, il va être détruit. Donc, c'est tout ce qui se passe est à peu près normal, si on peut dire. C'est le cours des choses. Par contre, nous devons être des flambeaux, apporter cette bonne nouvelle du salut, qu'on peut sortir de cette perdition avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a un moment où ce sera trop tard, lorsque la séduction sera tellement puissante que les gens ne pourront pas ne pas être séduits. Ils seront prisonniers, hein, de ces mensonges et ils suivront l'Antéchrist dans l'étang ardent de feu. C'est quelque chose d'abominable, de terrible, que de suivre l'Antéchrist. Et beaucoup le feront sans même se rendre compte de ce qui se passe. Prions pour nos familles, nos amis, qu'ils ne vivent pas la tribulation, qu'ils soient sauvés avant. Mais sinon, je vous conseille d'avoir un petit mot dans votre testament, si vous avez un testament, de dire, si je disparais avant vous, ma famille, hein, sachez que j'ai rejoint le Seigneur et que vous aussi, vous pouvez croire au Seigneur Jésus. C'est bien de laisser un testament aussi. Il y a le Nouveau Testament et bien il y a un autre testament. Pour que nos familles sachent. Et s'il y a eu l'enlèvement va être quelque chose de spectaculaire. Il y a des millions de gens qui vont disparaître. Des millions, d'un seul coup. Et on ne sait pas où ils sont. On ne les trouve pas. L'Antéchrist va certainement se révéler et donner des explications alambiquées, hein, pour expliquer cette disparition. Mais c'est bien que si nos familles ne sont pas sauvées, qu'ils puissent avoir un mot de nous, dire « si j'ai disparu, c'est que j'ai rejoint le Seigneur ». Voilà. Nous attendons le Sauveur glorieux. On va chanter un dernier cantique. 2 concerts avec les anges.